envoie-nous ce feu, Seigneur, qui nous pousse à te louer, qui nous conduit, qui nous remplit de joie, que nous puissions, ô Dieu, élever nos cœurs, nos voix vers toi pour la louange, parce que tu en es digne. Et nous voulons te demander ce soir de nous assister en nous envoyant une parole qui nous fasse, qui nous donne justement cette joie. Que tu nous instruises, que tu nous conduises, que tu nous parles, que tu nous réprimandes, que tu nous encourages. Oh, fais toute ton œuvre au-dedans de nous, que nous passions une soirée qui nous comble de joie. Sois béni, sois loué. Nous te demandons de bien vouloir inspirer ta parole ce soir, nous donner ces oreilles attentives pour que nous puissions écouter de manière à apprendre de ta part. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, te le demandons. Amen.
Amen.
Amen. Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations du frère Yedidja. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pendant un moment, les mercredis, j'aurai difficile un peu. Je vous expliquerai cela quand il faudra. Peut-être dimanche, mais je suis de tout cœur avec vous. C'est juste, ce sera pendant un moment, combien de temps, je ne sais pas. On verra bien comment Dieu conduira les choses. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, ce soir, nous qui nous attendons à la venue du Seigneur, nous allons ouvrir dans 2 Timothée chapitre 4, nos Bibles. Versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Quand l'apôtre nous parle de son combat, il nous dit qu'il a gardé la foi. Ce n'est pas une mince affaire. Vous savez, dans Luc, chapitre 23, je crois, ou 22, le Seigneur dit à ses disciples, il dit à Pierre, il dit, j'ai prié pour toi, parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler, hein, comme on crible le froment. J'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. C'est que la foi prend un coup parfois, lorsqu'on est criblé, lorsqu'on est secoué. D'autres font naufrage dans la foi, mais il s'agit de garder la foi. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Ce soir, nous parlerons du sujet « Tous ceux qui auront aimé son avènement ». C'est le titre. C'est vrai que cet avènement, nous l'attendons. Quand on est criblé de toutes sortes d'épreuves, nous nous attendons à cet avènement où, comme nous venons de le chanter, notre joie ne finira plus. N'est-ce pas ? Et son avènement est une promesse. C'est sa promesse. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3, il nous est dit, l'apôtre dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, ce sont les deux derniers jours de la grâce, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? L'avènement est une promesse, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et nous constatons que ces derniers jours dont il est question, c'est bien aujourd'hui. Et il promet également dans Jean 14, devant toutes ces choses qui arrivent, que votre cœur ne se trouble point. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des deuils, il y a toutes sortes de choses, il y a des secousses de toutes sortes, des vents dans toutes les directions. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, gardez la foi, n'est-ce pas? Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est une promesse. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y croyez? Nous y croyons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous sommes là, réunis ce soir. Nous nous préparons à sa venue. Afin que nous puissions le recevoir dès qu'il sera là. Au son de la trompette, la voix forte et claire qui nous rassemble, justement, ça nous rassemble pourquoi ? Pour l'enlèvement. Et l'avènement, pour ces deuils qui nous ont frappés, l'avènement du Seigneur est lié à la résurrection de ceux qui lui appartiennent. En tout cas, pour ceux qui lui appartiennent, il y a une promesse qui est faite lors de sa venue, quand il viendra. Et l'apôtre nous dit, ne soyez pas trop dans l'affliction au sujet de ceux qui nous ont quittés, n'est-ce pas ? Vous savez, lorsque le Seigneur viendra, au son de la trompette, au cri de l'archange, nous savons ce qui arrivera. Nous ne devancerons pas, nous les vivants ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et donc, quand le Seigneur parle, quand la Bible nous parle de l'avènement du Seigneur, nous devons savoir que lors de son avènement, il y aura une résurrection. 1 Corinthiens 15 nous le confirme. Et c'est pourquoi nous aimons cet avènement. Nous aimons cet avènement parce qu'il nous réunit à nouveau. Nous qui sommes en Christ, nous qui sommes ensemble, c'est pourquoi parler de ces choses aux vôtres, à tous ceux que vous aimez. Parce que les séparations que nous subissons ici, un jour, il y aura un rassemblement. 1 Corinthiens 15, la promesse est celle-ci, hein. Lorsque le geôlier a posé la question, il lui a été dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous n'oublions pas comment il s'appelle Rahab. Rahab a prié pour les siens. Les siens ont été épargnés. Hein, elle a demandé aux espions, elle a dit, écoutez, il faut épargner mon père, ma mère, mes frères avec les leurs et ainsi de suite. Et tous ceux-là ont été épargnés. Dieu entend nos prières. Amen. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Et cette résurrection, il en parle, à partir du verset 35, vous pouvez lire cela, et même au verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. C'est important parce que nous ne pouvons pas, lors de son avènement, aller avec lui tel que nous sommes là aujourd'hui. Nous devons être changés. Ça va? Dans nos prières, telles que nous sommes là, à chaque fois que nous prions comme le Seigneur nous a appris à prier. Il y a toujours cette phrase, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, à chaque fois que nous prions, il y a Seigneur, pardonne-moi mes offenses. C'est parce que nous l'offensons tous les jours. Il y a plein de choses en nous qui doivent encore être changées. Que personne ne s'imagine que, bon, tel qu'il est là, il est, il a. Comme Paul dit aux Philippiens, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Philippiens chapitre 3. Et cette résurrection-là dont je parle, Paul y aspirait. Philippiens chapitre 3, verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et s'il s'agit de la résurrection de ceux qui lui appartiennent, eh bien, il ne s'agit pas de dire de nous-mêmes que nous appartenons à Christ, mais l'apôtre dit, Christ lui-même, il connaît ceux qui lui appartiennent. Il les connaît. Dans 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Et nous avons vu dimanche passé, quand il dit, il connaît ceux qui lui appartiennent, qui sont-ils ceux qu'il connaît? Nous avons vu cela vendredi, la semaine passée, dans 1 Corinthiens 8, il s'agit de ceux qui aiment Dieu. Et nous l'aimons, n'est-ce pas, 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Ça veut dire que si nous aimons Dieu aujourd'hui, nous savons que Dieu nous aime. Et si nous l'aimons de tout notre cœur, ben, cela veut dire que Dieu nous connaît. Et cela veut dire aussi que nous lui appartenons. 1 Corinthiens 8 nous dit, hein, verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et aimer Dieu, il s'agit de quoi? Ben, David aimait Dieu. David aimait la parole de Dieu. Jean nous dit dans son épître, celui qui aime Dieu aime ses commandements. Et il aime ses rassemblements. David aimait d'être dans le séjour de la maison de l'Éternel. Il était dans la joie quand on lui disait, allons à la maison de l'Éternel. Il ne traînait pas les pieds. Il aimait qu'on lui dise, viens, allons à la maison de l'Éternel. Et ceux qui aiment Dieu aiment cela. Qu'il neige, qu'il fasse mauvais, quoi qu'il arrive, ils aiment ça. Et quand ils sont en péché, il y a comme une lourdeur dans leur cœur. Parce qu'ils aimeraient bien être là où Dieu parle, là où Dieu est présent, selon sa promesse. Et quand il est présent, nous sentons qu'il est là. Bon, ceux qui l'aiment sentent qu'il est là. Parce que si on vient une fois, on ne sent pas sa présence, une deuxième fois, on ne sent pas ça, on va finir par se lasser, on ne viendra pas. On ne viendra plus. Ça va devenir comme à un moment donné, le frère parlait ici il y a quelques jours de chrétiens du dimanche, on va venir le dimanche parce que le dimanche, il faut bien aller au culte. Non, on ne vient pas parce que c'est le dimanche, il faut bien aller au culte. On y vient parce qu'on aime Dieu. Et on aime Dieu tous les jours, que ce soit lundi, que ce soit mardi, que ce soit mercredi, hein, n'est-ce pas? On aime Dieu. Maintenant, c'est vrai que les activités que nous avons peuvent nous empêcher dans ce monde de pouvoir nous rassembler, mais si nous venons ici dans cette maison, c'est dans le but d'entendre sa parole. Et nous aimons sa parole. Et pour quelqu'un d'autre, ce sont des écritures qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais pour vous, c'est plus que de l'or. Oui. Pour celui qui aime Dieu, c'est plus que de l'or. Quelqu'un va lire un livre de comédie, il va se mettre à rire parce qu'il y a plein de blagues dedans. Mais vous, ici, vous allez rire de joie. Vous allez même pleurer parfois de joie. Vous allez serrer cette parole contre votre cœur. Vous aimez ça plus qu'un livre rempli de blagues. Et quand vous êtes déprimé, vous lisez ça, la parole qui est là vous remonte le moral. Lorsque vous vous sentez un peu ramplamplan, cette parole vous redonne du courage. Cette parole, elle est merveilleuse. Et il y a une force dans cette. Il y a une force de création. Et c'est avec cette parole-là, qui est écrite là, que Dieu a créé le monde. Il nous a dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. N'est-ce pas? Et donc, dans 1 Corinthiens 3, il nous a bien dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et si quelqu'un aime Dieu, il aime pourquoi? Parce que Dieu l'a aimé le premier. Amen. Et vous savez, qui ça? Lazare. Puisqu'on parle de résurrection, Lazare est un type de ceux qui ressusciteront premièrement, de ceux qui ressusciteront avant le dernier jour. Au dernier jour, il y aura une résurrection de tout le monde. Les croyants, les incroyants, les incrédules, il y aura une résurrection pour tout le monde. Mais pour les morts en Christ, il y a au préalable une résurrection particulière. Amen. Dans Jean 11, et Lazare était quelqu'un que Jésus aimait, et Lazare aimait Dieu, aimait le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Dans Jean 11, Marthe dit ceci. D'abord, au verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il les aimait. Et eux aussi l'aimaient. Et ils s'y sentaient bien. Ils pouvaient aller quelque part, mais ils ne se privaient pas de faire un détour vers la maison de Lazare. Oh, s'ils pouvaient faire un détour vers ma maison, je serais l'homme le plus heureux de la terre. Amen. Ils pouvaient faire ce détour. Alors, au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais si vous comptez les jours, on a déjà fait cela plusieurs fois, si vous comptez le jour, nous savons que le dernier jour, c'est le septième jour. Mais ici, Lazare, il est malade 2 jours et il est mort pendant 4 jours, ça fait 6 jours. Donc, il est ressuscité avant le septième jour. Et nous savons que le jour du Seigneur commence à l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement a lieu, c'est là que le jour du Seigneur commence. Lorsque le jour du Seigneur commence, c'est après la résurrection. La résurrection de ceux qui sont en Christ. Pas la résurrection de tout le monde, mais la résurrection de ceux qui sont en Christ, de ceux qui lui appartiennent. Et il connaît ceux qui lui appartiennent, et il fait cette déclaration dans Jean 17, de tous ceux que le Père lui a donnés, il n'en a perdu aucun. Et il n'en perdra aucun. Il n'en a perdu aucun. Et il les a eus comment ? Donc, le Père lui a donné comme cela gratuitement. Non, non, non. Il les a rachetés. Il a payé le prix pour les avoir. Et le prix est très fort. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous, verset 19, pardon. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Amen.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps, c'est 1. Et dans votre esprit, c'est 2. Qui appartiennent à Dieu. Et votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Alors, ces arguments fallacieux qu'on avance souvent, Dieu voit mon cœur, Dieu veut et ton cœur et ton corps. Je n'ai pas à faire ceci parce que Dieu voit que dans le cœur, je l'aime. Oui, il peut voir et dans le cœur, tu l'aimes, mais ton corps là, hein, sur lequel Dieu te fait des remarques. Dieu dit que ça lui appartient. Ce corps-là a été racheté. N'oubliez pas que ce corps, c'est lui qui pêche. Et donc, ce corps, normalement, est destiné à la mort. Ce corps est destiné à la destruction. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il le ressuscite quand même. Et quand il le ressuscite, c'est le même corps, ce n'est pas un autre. Quand il le ressuscite, Dieu le change. Vous n'êtes plus le même. Et si vous êtes vivant au moment où il vient, Dieu ne vous prend pas comme ça. Il le change. Amen. Et vous êtes racheté. Vous avez été racheté et il a payé le prix. Ils sont à lui. Ceux que Dieu rachète. Ceux que Christ a rachetés, ils sont à Dieu. Parce que dans Apocalypse, il nous a dit que l'agneau a racheté des hommes et des femmes pour Dieu. Apocalypse 5, c'est pour Dieu. Verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, même ma tribu. » Amen. Même les Bangelema. Dieu en a racheté. Amen. Dieu a racheté des Flamands. Amen. Des Wallons. De toute tribu. Des Balouba, des Bakongo. Tout ce que vous voulez. Toute tribu qui existe sur la terre, il y a des rachetés. Et Christ les a rachetés, il a payé le prix. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on ne vienne pas dire à un chrétien, toi là, de Kisangani. Moi, je ne suis pas de Kisangani. Je suis du ciel.
Amen.
J'ai été racheté. Moi, j'appartiens au ciel. Et ben, Dieu a permis que je naisse là-bas à Kisangani, mais je suis du ciel.
Amen.
Je ne suis pas de Kisangani. Amen. On me demande, quand je suis allé au Mais, quand est-ce que tu viendras à Kisangani? Je dis, je ne sais pas. Je crois que je ne mettrai plus jamais mes pieds à Kisangani. Je voulais aller m'incliner. Je voulais aller revoir la tombe de mon papa, de ma maman. Je n'ai pas vu. Mais il paraît que ce cimetière-là a disparu. On a construit des maisons. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à Kisangani? Je n'ai plus rien à y faire. Ce n'est pas Kisangani que je veux voir. Je veux voir le ciel. Amen. Moi, j'aime l'avènement du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et je me prépare ici, au milieu de mes frères et de mes sœurs, je me prépare à aller au ciel. Là où je dois habiter, là où on m'y a préparé une place. Gloire à Dieu. À Kisangani, je n'ai plus de place là-bas. Gloire à Dieu. Donc, de toute tribu, de toute langue, c'est ici en Belgique qu'il y a des conflits de langue. Hein? Vous allez dans une commune, dans une maison communale, moi j'ai mon interprète ici, n'est-ce pas?
Oui.
Chaque fois que je dois aller là-bas, on vous l'écrit, on vous dit, si vous parlez, on écrit en anglais, en français, tout ce que vous voulez. Encore un peu, on écrira en lingala et tout ça. On écrit, si vous ne parlez pas néerlandais, cherchez un interprète. Ok, moi je vais chercher mon fiston. Ou alors, quand il est vraiment pris, je prends, Google m'aide beaucoup. Je bloque les phrases et puis j'entre. Et puis je dis, je prononce 2-3 phrases. Ces gens-là sont... Mais eux, ils sont regardants sur la langue. Par contre, amen, là-bas, toute langue.
Amen.
Même si je ne parle pas néerlandais, je suis reçu là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, ces gens-là sont à lui et ces gens-là aiment. Évidemment qu'ils aiment l'avènement du Seigneur. Jean, quand il voit ça, quand il voit cette gloire-là, toute cette chose-là que Dieu lui a montrée, quand il voit ça, il conclut l'Apocalypse par « Seigneur, viens Seigneur ». Il dit « Viens ». D'abord, il dit « Celui qui atteste ces choses ». Donc, lui dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens Seigneur Jésus. Il aime son avènement. Et nous de même, nous devons montrer à Dieu que nous aimons son avènement. Parce que son avènement ne doit pas nous trouver dans n'importe quel état, dans n'importe quelle situation. Il dit à Jacob, nous avons vu la semaine passée, j'ai aimé Jacob. Il aime Jacob. Et Jacob l'aimait. Jacob aimait les choses de Dieu. Et nous aimons les choses de Dieu. Quand vous me dites que Dieu te bénisse, je suis content, je suis heureux, parce que les bénédictions de Dieu, je les aime. Parfois, je ne les vois peut-être pas, mais avec mes yeux charnels, mais je sais qu'après que vous m'ayez dit que Dieu me bénisse, il m'arrive de bonnes choses parfois, que vous ne savez pas, je témoigne rarement, mais je regarde, je dis, franchement, Dieu m'aime beaucoup.
Amen.
Et je crois que c'est pareil pour vous tous. Quand vous croyez que c'est fini, eh ben, y a rien, il y a ceci. Non, Dieu vient, il vous remonte le moral. Vous savez, c'est, vous tirez un grand bénéfice à lire la Bible. Dans un esprit de prière, c'est le meilleur des médicaments contre la déprime. Amen. Oh, au moment de l'embarquement, lors de mon retour, le monsieur me demande d'ouvrir mon cartable. J'ouvre mon cartable. Et il voit ma Bible dedans. Il dit, oh là là, vous avez de la bonne lecture là-bas. Moi, je lui dis, ça, c'est des armes permises dans l'avion. Amen. Et il m'a regardé, il m'a dit, que Dieu me bénisse. J'ai dit, Dieu vous bénisse également. Amen. Ah, quand on se rencontre entre nous, n'est-ce pas, on se donne des bénédictions. Gloire à Dieu. Ésaïe 43. Et c'est fou, l'effet que la Bible a sur les croyants, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, vous ouvrez votre cartable, ben, dès qu'ils voient la Bible, ils sont contents. Un, vous le rassurez, ils voient que ça, c'est quelqu'un de bien. Et, mais quand ils voient le Coran, ça peut être quelqu'un de dangereux. Hein? Nous ne mettons pas de bombes, nous. On ne met pas de bombes. Gloire à Dieu. Directement, vous inspirez une confiance. Quand il voit que vous êtes un lecteur de la Bible.
Voilà.
Amen. N'ayez pas honte d'avoir votre Bible en main. Ça peut vous servir. Ésaïe 43. Dit qu'il a aimé Jacob. Écoutez ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, il lui a donné une forme, ô Israël. C'est toujours Jacob, hein? Son nom a été changé en Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Sur tes fautes-là que tu as faites, ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Dieu lui dit, tu es à moi. Vous savez, nous quand on dit, nous disons mon Dieu, ce n'est pas que Dieu est à nous. Non, c'est nous qui sommes à lui. Le mon là, ça veut dire que nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Non pas que nous le possédons, non, c'est lui qui nous possède.
Oui.
C'est lui qui nous a rachetés. Nous, comment est-ce que nous pouvons racheter Dieu? Il dit, tu es à moi, Jacob, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est pas merveilleux, ça? Et les fleuves, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Point. Même si tu ne sais pas nager. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si vous dites que ce n'est pas vrai, demandez à Shadrach, Meshach, Abednego. Ils vous le diront. Et la flamme ne t'embrasera pas. Même pas l'odeur de la fumée. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur. On peut te regarder, te mépriser, mais à mes yeux, tu as du prix. Parce que tu es honoré, et c'est ici que je voulais en venir, tu es honoré et que je t'aime. Dieu fait cette déclaration d'amour à Jacob. Dieu dit à Jacob, je t'aime. Vous ne sentez pas que ça vous réchauffe, ça. Quand Dieu vous dit, je t'aime. Gloire à Dieu. Malgré toutes les tribulations que tu connais, là, Jacob, je t'aime. Les enfants chantent, le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Donc, nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Et qu'est-ce qu'il fait lorsque il aime Jacob et que Jacob a été racheté par lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé Jacob.
Amen.
Et nous également, il nous forme. Il nous forme. Parce que lors de son avènement, il ne doit pas nous trouver dans cet état-là. Il doit trouver Jacob changé en Israël. Quelqu'un qui marche autrement qu'il ne marchait avant. Il doit nous trouver tout à fait autrement. Mais comme il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer, lui-même, Jacob lui-même ne pouvait pas se changer. Jacob ne pouvait pas changer sa démarche. Jacob devait commencer à boiter après s'être battu avec Dieu. Amen. Frère Bonhomme, je lisais encore, c'est quoi, du baume en Galate. Frère Bonhomme dit, c'est très difficile d'aller en enfer. Il dit, c'est très difficile d'aller en enfer. Mais ceux qui vont en enfer, ce sont des gens qui ont combattu, mais qui n'ont jamais changé. Mais Jacob, il a changé, sa démarche a été changée. Vous de même, vous n'êtes plus les mêmes que ceux que vous étiez autrefois. Vous avez changé. Les mercredis soirs et les vendredis soirs, je ne sais pas où nous étions, mais aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Où vas-tu? Je vais à l'assemblée. Oh.
Amen.
Mais tu n'as pas vu cette pluie qui tombe. Ce n'est pas cette pluie qui tombe qui va me décourager. Nous avons vu d'ailleurs, la pluie, c'est un type du Saint-Esprit. Hein. Quand le feu tombe, amen. Et donc, Dieu lui-même se charge de nous changer, de nous former. 1 Thessaloniciens 5, lors de son avènement. Dans quel état il veut me trouver? Dans quel état il veut vous trouver? 1 Thessaloniciens 5. Verset 18, on va commencer là. Rendez grâce en toutes choses.
Amen.
Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
Alléluia.
Ça va? Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque fois que nous en avons l'occasion,
oui,
une action de grâce,
oui,
n'hésitons pas.
Amen.
Voulu faire un programme le jeudi de l'Ascension, on me dit, c'est férié, donc il y a action de grâce, ben, ça va, on ne va pas sauter l'action de grâce. Pour rendre grâce à Dieu.
Amen.
Dieu est bon.
Alléluia.
Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit.
Amen.
Ne méprisez pas les prophéties. Je les aime, moi, les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, écoutez ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ne demandez pas à Gabriel de venir vous sanctifier. Amen. Ne demandez pas à Michael de venir vous sanctifier, non. Ni même à votre pasteur, non. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même.
Amen.
Tout entier, pas seulement votre cœur. Un Dieu voit mon cœur, Dieu voit. Oui, il voit aussi ton nez.
Alléluia.
Il voit aussi ta tête.
Alléluia.
Pas seulement ton cœur.
Amen.
Tout entier et que tout votre être,
amen,
dites amen à ça,
amen,
l'esprit,
oui,
virgule,
oui,
l'âme, et le corps,
oui,
soit conservé, tout l'être entier, hein,
oui,
esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable,
amen,
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Alors, ô merveille, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Bon, maintenant, avec l'esprit que nous avons ici, essayons d'être irréprochables. Vous regardez Solange, commencez à dire Solange, elle est vraiment, elle se dit une fille de Dieu. Et vous dites toutes ces choses-là, là-dedans, vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Vous croyez que Dieu ne vous entend pas. Comme Simon le pharisien, il dit, ah, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette fille, est cette femme. Et nous aussi, on regarde sa sœur Solange, on dit, de quelle espèce elle est, cette femme. On regarde, oh, le frère Guy, oh, celui-là aussi, de quelle espèce est-ce qu'il est. Ou le frère Maurice. Oui. Avec cet esprit-là. Et Dieu voit. Dieu voit cela. Mais c'est lui-même qui le fera.
Amen.
Et il le fera. Il le fera comment? Je vais m'asseoir et puis il va le faire. Non. J'exhortais quelqu'un. Dieu est en train de travailler ta patience. Tel que tu es là, tu ne peux pas aller espérer l'enlèvement. Tu dois avoir une patience, celle que Dieu donne. Et pour avoir cette patience, on le dit souvent à l'assemblée, il n'y a pas de paquet de patience qu'on va venir te mettre dans le camp. Non. On va te faire passer par une expérience qui va faire naître la patience. Et la patience produit la persévérance. Amen. Donc, c'est Dieu lui-même qui le fera. Vous sanctifier. Donc, ça veut dire vous rendre saint, vous rendre irréprochable lors de l'avènement. Donc, quand il viendra, qu'il n'y ait rien à me reprocher. Qu'il n'y ait rien à vous reprocher. Alors, Seigneur, comment je vais faire? On le lit souvent. Éphésiens, chapitre 5. Verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ok, c'est très bien. On peut un peu s'arrêter là. Les prédicateurs aiment bien, surtout les prédicateurs africains, aiment bien prêcher ce verset. J'écoutais encore tout à l'heure un prédicateur qui criait. La femme, les femmes, et c'était vrai, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Depuis quand? Est-ce que c'était une lettre, c'était aux Corinthiens qui l'a dit, c'était pas aux Cassaïens, hein, puis c'était aux Cassaïens qui étaient en train de prêcher. Est-ce que la lettre était destinée aux Cassaïens? Non. Il dit c'est toutes les églises, pas seulement les Corinthiens. Ben, ok, c'est très bien. Et il insistait là-dessus, mais c'est très bien d'insister, mais vous savez, il nous a aussi été dit en cet âge qu'une femme, c'est une église.
Amen.
Et dans l'église, il y a des hommes et des femmes.
Amen.
Soyez soumises. Nous tous, nous attendons l'époux, n'est-ce pas?
Oui.
Bien. Que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, aimée, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, n'est-ce pas? Afin de la sanctifier en la... Comment est-ce qu'il la sanctifie? Il la purifie d'abord en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole.
Amen.
Vous voyez comment la sainteté vient? Comment la sanctification est faite? Pour faire disparaître devant lui, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse.
Amen.
sans tache,
oui,
ni ride,
Amen,
ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez comment on est irréprochable lors de l'avènement du Seigneur.
Oui.
Donc, c'est comment cela? D'abord, ça commence par une soumission à Christ.
Amen.
Christ est la parole.
Amen.
Ça continue. Si vous désirez être sanctifié, c'est par la parole. Ça va? Vous êtes désiré d'être sanctifié, purifié et lavé. Vous avez ce désir-là. Alors, si vous avez ce désir-là, ça veut dire que vous aimez la parole. Parce que c'est la parole qui peut vous sanctifier, vous purifier, vous laver. Et vous aimez la parole. Donc, la femme, l'Église, qui aime l'avènement du Seigneur, est soumise à Christ. Elle aime la parole. Parce que la parole la sanctifie. La parole la purifie. La parole la lave. Amen. Et elle se laisse purifier par la parole. Jean 15. Jean 15. Verset 3. Déjà, purifié, hein, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et ce n'est pas fini. Jean 17. Verset 14. Ceux qui lui appartiennent, ceux que le Père lui a donné, qu'est-ce que Christ a fait? Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du malin, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ce monde n'est pas fait pour nous. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Et par cette parole que nous recevons, c'est cette parole qui va nous laver, qui va nous purifier, qui va nous enlever tout ce qui nous est reprochable. Ça va nous enlever cela. De telle manière, on a été tellement soumis à Christ, on a été tellement soumis à la parole de Dieu, on n'a pas été rebelle. La parole nous a été apportée, Dieu nous a parlé à chacun individuellement, comme il a parlé à Zachée dans sa maison. Ça va? Il n'a pas parlé à Zachée comme ça, dans la foule comme ça. Il a parlé à Zachée dans sa maison. Il lui dit, descends, je viens chez toi. Et tous ceux qui lui appartiennent, Dieu leur parle. Il dit, je viendrai le soir, je frapperai à la porte. Celui qui ouvrira, je souperai avec lui. Et nous tous ici, au temps du soir, nous avons cette promesse qu'il a de venir nous laver au temps du soir. Et au temps du soir, il y a eu, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, Zacharie 14 nous dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. La lumière du temps du soir, c'est le message que vous avez reçu. C'est la parole prophétique que vous avez reçue. Cette parole, elle est là, n'est-ce pas? Dans 2 Pierre, il nous a dit ceci, hein, vous faites bien de vous attacher à cette parole. 2 Pierre, chapitre 1er. Et le frère, justement, a reçu comme mandat, comme mission, d'être porteur d'un message qui nous préparera à la venue du Seigneur, à l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi nous aimons ce message, parce que ce message nous prépare à la venue du Seigneur.
Amen.
Et nous y croyons. Et ce message nous corrige, pas seulement le cœur. Le message corrige le corps, notre être entier. Le corps, l'âme, l'esprit. Et Dieu nous a promis ceci, il nous a dit, je donnerai un esprit nouveau. Cet esprit-là que nous avions, Dieu va nous l'enlever. L'esprit qu'ils avaient, je leur donnerai un esprit nouveau. Et puis il dit, je répandrai mon esprit. Alors, verset 19, 2 Pierre chapitre 1, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce message, cette parole du temps du soir que nous recevons, que nous avons reçu, cette parole est là pour nous rendre irréprochables. On nous critiquera peut-être. Le monde nous critiquera. Pourquoi? Parce que nous sommes différents d'eux. Et notre présence, le fait de nous voir, ça les condamne. Ils se rendent compte qu'ils ont abîmé leur corps par pas mal de choses, mais vous avez gardé le vôtre en bon état. Et quand ils s'en rendent compte comme ça, au lieu de dire, ah, que j'aille là-bas, enfin, que je reçoive aussi ce qu'ils ont reçu, qui les a si bien changés, non, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. Ça ne sert à rien de critiquer. Ce message que vous avez reçu, si vous y êtes soumis ou soumise en tant qu'Église, si vous y êtes soumis, ne faites pas comme les catholiques. Les catholiques, ils ont leur propre commandement. Il y a le commandement de Dieu et le commandement de l'Église. Ça, eh ben, c'est leur choix. Mais nous ne rajoutons pas de commandements. Nous gardons les commandements de Dieu. Et chez nous, ça n'évolue pas. Hein? Mon homonyme là-bas, qui est là-bas du côté de Rome, là-bas, n'est-ce pas? À un moment donné, il veut faire changer les choses. Il dit que non, en fait, ce sont des enfants de Dieu, c'est bien ainsi. Non, Dieu a établi le mariage. Écoutez, si vous voulez appeler ça mariage, non, ce n'est pas correct. Dieu a appelé mariage un problème entre un homme et une femme qui s'aiment. Point. Maintenant, deux hommes qui se mettent ensemble, deux femmes, appelez ça comme vous voulez, comme ils aiment bien dire eux-mêmes, mon compagnon, parlez de cela, mon compagnonnage, c'est très bien. C'est leur langage. Dites compagnon. Ou si vous voulez, dites mon camarade ou mon cohabitant, que sais-je, donnez le nom que vous voulez, mais ne donnez pas le nom de la Bible. Les définitions de la Bible ne vont pas vous changer pour vous faire plaisir. Ni pour me faire plaisir, moi non plus. Je dois suivre ça. Soyez soumis. Ceux qui sont soumis, ce sont ceux-là que le Seigneur viendra chercher. Il n'y aura rien à leur reprocher. Pourquoi? Parce que Dieu envoie ce qui fait de sorte que nous ne soyons plus reprochés. Et vous faites bien de recevoir cette parole. Cette parole est destinée justement à nous apprêter à le recevoir lors de son avènement. Et si vous recevez que vous aimez son avènement, vous ne faites pas attention critique tellement que vous aimez son avènement. Et les signes de son avènement, parce que dans Matthieu 24, les disciples ont demandé les signes de son avènement. Il les a donnés, n'est-ce pas? Matthieu 24, pour les uns, c'est un mystère, Celui qui est là-bas, qui menace les gens d'une guerre nucléaire, hein, n'est-ce pas? Et il menace, il ne sait pas qu'il est en train de faire la parole de Dieu. Mais nous, on sait qu'il est en train d'accomplir la parole. Nous le savons. Lui, il ne sait pas. Il croit que c'est lui qui est fort, que c'est lui qui change l'histoire. Non, c'est Dieu qui change l'histoire. Il ne sait pas qu'il est en train de faire exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc, Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'est beau, hein, maître. Ce sont des biens matériels. Ça n'a aucune importance. Ben, c'est bien d'être dans une belle maison, c'est bien. Ce n'est pas ça le problème. Mais ce n'est pas ça c'est pas ça qui compte chez Dieu. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Seigneur, tu laisseras ce beau bâtiment être renversé? Il va se gêner peut-être. Jamais de la vie. Il ne va pas se gêner. Il va laisser ce beau bâtiment renversé, être renversé. Et il est renversé aujourd'hui, au moment où nous parlons. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que ça va arriver? Et quel sera le signe de ton avènement? Dites amen à ça. Parce que pourquoi ils demandent le signe de son avènement? Parce qu'ils aiment son avènement. Et ils savent que Dieu avertit les choses par des signes. Et nous aussi, nous le savons. Et ces signes sont là. Et le signe de la fin du monde également. Il dit que personne ne vous séduise. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Ces choses qui arrivent, Jésus les a prononcées. Tout cela est dans les sceaux et Dieu nous a révélé ces sceaux en cet âge. Gloire à Dieu. L'agneau a brisé les sceaux. Nous allons prier. Tous ceux qui auront aimé son avènement, ils ne seront pas déçus. Ils voient l'avènement arriver. Ils voient que la venue du Seigneur est imminente. Ils voient. Ils voient que son avènement est à la porte. Prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Père céleste, tu veux nous trouver irréprochables lorsque tu viendras nous chercher. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous rendre irréprochables. Mais nous avons reçu et nous recevons encore, pendant que c'est encore jour de grâce, nous recevons encore cette parole qui purifie, cette parole qui lave, cette parole qui sanctifie. Tu nous l'as envoyée en cet âge et nous t'en sommes reconnaissants. Rends-nous obéissants et soumis, que nous puissions obéir, que nous puissions nous conformer à chaque parole que tu nous apportes. Non pas la parole d'un homme, mais ta parole, celle que tu as inspirée, celle que tu as fait sortir par la bouche d'un de tes serviteurs, ô Dieu, comme étant venant de toi, ô Seigneur, et que cette parole puisse, comme elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel tu l'as envoyée, nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous savons que ce que tu as résolu que nous soyons, nous le serons certainement. Et c'est ainsi que Paul a dit qu'il était persuadé que cette œuvre que tu avais commencée en chacun de nous, tu la rendras parfaite pour le jour du Seigneur. Sois béni, sois loué. Et nous te donnons, ô Dieu, nous te demandons ce soir, te donnons nos cœurs, nos êtres tout entiers, puisqu'ils t'appartiennent déjà, vraiment, nous te les soumettons, qu'ils soient à ton service, que nous puissions prendre garde selon ce que tu nous dis, ô Père, que nous puissions les traiter comme tu nous demandes de dire, les habiller comme tu nous demandes de les habiller, ô Père, faire de sorte qu'il soit conforme à ce que tu veux qu'il soit, parce que tu nous as rachetés tout entier, l'être tout entier. Tu ne nous as pas rachetés en morceaux, en partie, non, c'est l'être tout entier que tu as racheté. Et nous voulons te trouver prêt pour ce jour. Aussi, tes enfants qui aiment ton avènement se réunissent dans des réunions de prière, dans des veillées de prière. Il y en aura une ce soir. Que tu sois avec tes enfants, que tu bénisses tes enfants, ceux qui pourront venir, ceux qui ne pourront pas venir, que tu sois avec chacun pour la gloire de ton saint nom. Oh Dieu, dans les maisons où l'on t'invoquera, dans les lieux de rassemblement où l'on t'invoquera, que tu sois avec tous tes enfants, ô Père, et que chacun puisse trouver son compte, que chacun puisse recevoir la parole qui lui convient pour pouvoir ainsi être trouvé irréprochable ce jour-là. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.